VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous pour vous présenter ce bulletin d'information. L'ambassadeur américain aux Nations Unies, Nick Haley, en visite en RDC, a appelé à Kinshasa à l'organisation des élections en 2018, alors que la commission électorale table sur 2019 dans un pays en crise. L'ambassadeur, qui a auparavant rencontré l'épiscopat congolais, a invité les évêques à mettre fin à la patte. Les évêques attendent de la communauté internationale un appui pour la tenue des élections dans le meilleur délai, avait déclaré à la presse l'abbé Donatien Chollet, porte-parole des évêques à l'issue de la rencontre avec Nick Haley. Madame Haley est arrivée mercredi à Kinshasa avant de se rendre à Goma, puis à Kichanga, dans la province du Nord Kivu Est, où elle a visité un camp de personnes déplacées. L'Est congolais est déchiré par des conflits armés depuis deux décennies. Le Kenya paraissait toujours plus divisé après une présidentielle boycottée par l'opposition, endeuillée par la mort de plusieurs de ses partisans. Les opérations de compilation des résultats se poursuivaient aujourd'hui. D'après chez Bukati Wafula, président de la commission électorale, les résultats de plus de 36 000 des 40 883 bureaux de vote du pays étaient déjà transmis à la commission. Le taux de participation était estimé à moins de 35% des 19,6 millions d'électeurs sur plus de 90% des circonscriptions dépouillées. La faible participation questionne d'ores et déjà la légitimité du président Uhuru Kenyatta. L'opposant Raila Odinga a qualifié ce scrutin de mascarade électorale. L'opposition kenyane a appelé ses partisans à rester à l'écart du scrutin organisé demain dans quatre comtés de l'ouest du pays où l'élection présidentielle n'a pu avoir lieu hier en raison des violences pour éviter de mettre leur vie en danger. La Commission électorale nationale du Liberia appelle les citoyens au vote dans un message posté sur Facebook. N'oubliez pas de voter. Le scrutin du second tour de la présidentielle se tient dans 10 jours et verra s'affronter l'ex-star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Plus de 500 Togolais ont trouvé refuge au Ghana voisin, fuyant la répression des forces de sécurité dans la région de Mango, dans le nord du Togo, dans un climat de forte contestation populaire contre le pouvoir, a révélé aujourd'hui les Nations Unies. Depuis 2 mois, le Togo et connaît une forte vague de contestation contre le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Et des milliers de réfugiés sud-soudanais sont sans abri à Khartoum après la démolition de leurs habitations par la police soudanaise. L'alerte a été lancée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et la justice sud-africaine a lourdement condamné deux fermiers blancs pour avoir tenté d'enfermer un noir dans un cercueil et l'avoir menacé de mort. Cette affaire illustre la persistance des tensions raciales 23 ans après la fin de l'apartheid. Willem Oosthuizen a été condamné à 16 ans de réclusion, dont 5 avec sursis, et Théo Martins Jackson à 19 ans, dont 5 ans avec sursis. Ils ont accueilli nerveusement leur condamnation, tête baissée sur le banc des accusés, tandis que des membres de leur famille éclataient en sanglots dans le public. Les deux fermiers avaient plaidé non coupables. L'équato-guinéen Théodorine Obiang a été condamné pour s'être frauduleusement bâti en France une énorme fortune. Il a écopé 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende avec sursis. Ses biens saisis en France sont confisqués, dont un somptueux hôtel de particulier avenue Foch à Paris. La condamnation à Paris de Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, constitue une première dans l'affaire des biens mal acquis. L'acquisition de patrimoine considérable en France par plusieurs dirigeants africains. Et le bilan de l'épidémie de peste qui frappe Madagascar depuis le mois d'août s'est aggravé pour atteindre 124 morts. Pour tenter d'en enrayer, le gouvernement a interdit les réunions publiques dans la capitale Antananarivo et ordonné la fermeture de nombreux établissements scolaires. Solange Nyamulisa a joint Sylvain Ranjalahi, directeur de la publication du quotidien L'Express de Madagascar.
Le dernier bilan établi par le Bureau national de la gestion des risques catastrophes fait état de 124 morts pour presque un millier de malades.
Les chiffres ne font qu'augmenter. Est-ce que le gouvernement apporte une réponse appropriée à cette épidémie?
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, en partenariat d'ailleurs avec les organismes internationaux, dont l'OMS et l'UNICEF. Mais ceci dit, il y a de plus en plus de morts tous les jours parce que Madagascar est très grand. On ne peut pas répertorier toutes les victimes au même moment. Donc c'est normal que les chiffres augmentent petit à petit et de jour en jour.
Mais est-ce que le gouvernement fait vraiment assez?
Il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, il a fait appel à l'aide internationale. D'un côté, le ministère de la Santé a fait ce qu'il a à faire, avec le ministère de l'Éducation nationale également, avec la fermeture des écoles. Mais il est vrai que le gouvernement ne montre pas assez de fermeté dans les mesures qu'il a prises. Par exemple, la fermeture des écoles devait aller jusqu'au 6 novembre. Mais aujourd'hui, les écoles catholiques ont décidé de rouvrir malgré les risques. De l'autre côté, on a fermé les écoles et les spectacles, alors que les cultes religieux et les autres rassemblements n'ont pas été interdits par le gouvernement. Et du coup, la population se demande s'il y a vraiment une épidémie ou pas, parce que le gouvernement ne prend pas les mesures qu'il faut.
Et qu'en est-il de la sensibilisation?
C'est un peu trop tard parce que le gouvernement a été pris de court, étant donné que la peste, depuis quelques années, survient à la même période. Depuis, disons, 2012 ou 2013, c'était la version bubonique qui n'est pas très dangereuse. Mais là, maintenant, c'est la peste pulmonaire qui se transmet très vite et qui est mortelle en 24 ou 48 heures si le malade ne reçoit pas des soins.
C'était Sylvain Ranjalahi, directeur de la publication du quotidien L'Express de Madagascar.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le gouvernement espagnol devrait obtenir aujourd'hui le feu vert du Sénat pour prendre le contrôle de la Catalogne. Il s'agit d'une mesure sans précédent en 40 ans de démocratie à laquelle les séparatistes pourraient répliquer par une déclaration d'indépendance. Le Sénat espagnol s'apprête donc à voter en faveur du déclenchement de l'article 155 de la Constitution pour permettre au gouvernement de Mariano Rajoy de mettre la Catalogne sous tutelle. Une mesure drastique et délicate à mettre en œuvre. La République catalane pourrait être proclamée dès aujourd'hui par les séparatistes, mais beaucoup de Barcelonais, indépendantistes ou non, n'y croient pas. Certains en parlent comme d'une farce, d'autres craignent que leur rêve d'indépendance reste lettre morte. Après un long suspense de plus d'un demi-siècle, l'administration Trump a publié hier près de 3000 dossiers secrets sur l'assassinat du président américain John F. Kennedy, le 35e président, repoussant toutefois de 6 mois la divulgation de certains documents jugés trop sensibles. Et l'avenir de la Syrie s'écrira sans Bachar al-Assad, en tenait les États-Unis hier. La nouvelle ère annoncée par Xi Jinping n'offrira aucun répit sur le front des libertés en Chine, redoutent les militants des droits de l'homme. Point final à ce journal. Merci de votre oreille attentive. Je vous présente le prochain bulletin dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.